est en baisse ce matin. Dans un instant, la bourse.
La bourse avec Lexmark, fournisseur de services et de solutions d'impression pour l'entreprise.
Et la tendance générale, Vincent Bezos, c'est la baisse à la bourse.
Effectivement, Claire, après son rebond de la semaine passée, qu'il a vu s'adjuger quelques 2% en 5 séances, la bourse de Paris campe dans le rouge ce lundi. Le CAC 40 abandonne actuellement 0,49% à 5020 points dans un marché singulièrement peu tonique, puisque le montant des transactions n'excède pas le milliard d'euros. Cette mollesse de la tendance et des échanges tient pour beaucoup à l'absence des investisseurs britanniques et américains dont les marchés font relâche ce lundi. Michelin, vous en parliez, eh bien le titre recule. Alors, actuel de 0,88%. Sur le marché d'échange, l'euro s'établit à 1,2761. Pas de marché de l'or à Londres aujourd'hui. Rappelons que l'once de métal fin se négociait vendredi contre 642,25 $. Le CAC 40, lui, décline de 0,48% à 5020 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezos pour France Inter.
Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Un mot de tennis pour terminer, pour vous dire qu'à Roland-Garros, Sébastien Gros Jean mène désormais 2-7 à 0 face au Roumain André Pavel. Nathalie Dechy mène elle aussi face à Stéphanie Foretz. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. C'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, non pas la machine Enigma, comme on vient de l'entendre, mais avec Hélène Kaerdankos. La déstalinisation, c'était il y a 50 ans, la deuxième mort de Joseph Staline. Tripler la garde autour de sa tombe. Que jamais Staline n'en sorte, ni le passé avec Staline. Yevgeny Evtushenko. D'histoire. Il y a 50 ans, le 14 février 1956, s'ouvrait à Moscou le 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. Ce congrès, tout le monde en était convaincu, devait être un congrès comme les autres, une de ces grands messes sans surprise, pendant lesquelles on encensait traditionnellement le génie des dirigeants soviétiques et la supériorité du communisme sur le capitalisme. Aucun des 1500 délégués qui y participaient, aucun des communistes étrangers qui y avaient été invités, n'imaginait le coup de théâtre qui se préparait ce jour-là au Kremlin. À la tête de l'URSS depuis quelques mois, Nikita Khrouchtchev avait soigneusement dissimulé son intention de dénoncer les crimes de celui qui, pendant 30 ans, avait régné sans partage et par la terreur sur un des plus grands empires de l'histoire. Il faut dire qu'en URSS et pour tous les communistes du monde, Staline faisait encore l'objet d'un culte qui n'avait pas faibli depuis l'annonce de sa mort 3 ans plus tôt, le 5 mars 1953.
Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин.
Joseph Staline est mort. Chef du plus vaste empire du monde, a succombé à 73 ans à une hémorragie cérébrale. Depuis 1924, il avait pris la succession de Lénine et assumé à la fois la conduite du peuple russe et celle du régime soviétique. Qu'adviendra-t-il demain dans ce monde qu'il abandonne? Divinisé par ses fidèles, honni par ses adversaires, on peut dire que Staline, l'homme d'acier, fut un extraordinaire bâtisseur. La force soviétique créée par lui est l'un des pôles du monde d'aujourd'hui. Qu'en feront ses successeurs?
Et c'était les actualités russes et françaises quand Staline est mort en mars 1953. Hélène Kaerdankos, bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui que l'on connaît les crimes de Staline, la politique de terreur qu'il avait mise en place, on a du mal à imaginer à quel point, il y a 50 ans, il était admiré, même idolâtré par certains, même en dehors de l'URSS. Dans votre dernier livre, 1956, la deuxième mort de Staline, vous rappelez qu'à l'époque, il n'était pas encore question de ses crimes, mais que on encensait, on vient de l'entendre, même en France, un extraordinaire bâtisseur. Cette admiration, en plus, elle n'était pas feinte.
Elle n'était pas feinte du tout. Il faut se souvenir qu'au moment où il meurt, on avait célébré 3 ans plus tôt son 70e anniversaire. Eh bien, la presse soviétique était pleine encore en mars 1953 des télégrammes de félicitations envoyés non seulement de tous les coins de l'URSS, mais du monde entier, de la description des cadeaux qui lui avaient été adressés pour ce 70e anniversaire, qui avaient été traités dans tous les pays, et en France aussi, comme un événement de portée internationale incomparable. Songez que des ouvriers d'usine en France, pas seulement en URSS, s'étaient cotisés pour envoyer un cadeau au chef bien-aimé.
Et vous le rappelez, au moment de ces obsèques, il y a des centaines de moscovites qui sont morts en Russie pour essayer de voir, de toucher, de voir simplement le corps de Staline momifié.
C'était extraordinaire, et je dirais que l'annonce de sa mort a été un coup de tonnerre absolument incroyable. Les soviétiques étaient depuis 3 ou 4 jours préparés à un événement, ils ne savaient pas très bien lequel. Mais la radio soviétique diffusait de la musique très classique dans les derniers jours. Et puis tout d'un coup est tombée la nouvelle annoncée par l'homme qui parlait à la radio le plus célèbre de toute l'URSS, il s'appelait Lévitan, qui a annoncé dans un silence sépulcral, annoncé par la musique funèbre de Beethoven. Il a dit « Notre chef bien-aimé, notre guide est mort ». Et je voudrais vous raconter une seconde, si vous me permettez, une anecdote qui montre l'ambiguïté de la réaction populaire. Dans un sanatorium, c'est-à-dire dans une maison de repos pour intellectuels, un jeune Hongrois qui était là, qui était membre du Parti communiste, m'a raconté personnellement que tout le monde était à table à l'heure où cela a été annoncé. Et au moment où on annonce ça, il y a eu un silence pétrifié. Et puis, tout d'un coup, une voix a laissé tomber une phrase, un mot. « Enfin !» Les gens se sont regardés pétrifiés. Et tous les regards se sont portés sur la table et tout le monde a commencé à sangloter bruyamment. Ça traduisait, si vous voulez, l'anxiété du pays devant un système stalinien qui, à nouveau, depuis 1948, était devenu terrifiant.
Alors évidemment, on ne se réjouit pratiquement que dans les prisons, et là, il y a absolument énormément de monde. Tout ça est le fruit d'une propagande de ce que Khrouchtchev appellera justement le culte de la personnalité. Et surtout, à l'époque, en 53, on s'interroge bien sûr sur le nom des successeurs de Staline, tandis qu'en Russie, on continue de chanter le nom de celui qui venait de disparaître.
Dans ce mot, il y a force, santé, bonheur. De la terre jusqu'au soleil, au-dessus de la gloire de notre peuple, ce mot s'élève comme l'arc-en-ciel aux 7 bandes. Il monte comme un chant au-dessus des jardins, là où les sommets vibrent dans la lumière, laissant les aigles sans ailes. Ce mot, ce grand mot, c'est Staline. Âme, chair et sang du peuple.
La dernière manifestation publique de Staline montre les visages de ses nouveaux maîtres du Kremlin. Molotov reprend le ministère des Affaires étrangères. À côté de lui, Malenkov qui s'installe à la place de Staline au secrétariat du parti et à la direction du gouvernement. Le maréchal Vorochilov à gauche devient chef de l'État et à l'extrême gauche, Beria, chef de la police et de l'industrie atomique, prend la seconde place après Malenkov. Staline disparu, la politique de l'URSS va-t-elle évoluer aux mains des nouveaux maîtres ?
Et dans la liste des nouveaux maîtres dont parlaient ces actualités françaises de 1953, il n'y a pas le nom de celui qui va succéder à Staline, Khrouchtchev. Il n'est question, on l'a entendu, que de Molotov, Vorochilov, Beria. Et alors surtout celui qui est considéré comme le dauphin naturel de Staline, c'est Malenkov, Hélène Gardandos.
C'est Malenkov qui était monté en puissance au 19e congrès qui avait eu lieu en octobre 1952, c'est-à-dire quelques mois avant la mort de Staline. Staline était fatigué, puis cet homme rond, si vous souvenez, le physique de Malenkov était... C'était un rondouillard qui était très énergique d'ailleurs. Le physique ne traduisait pas les tendances caractérielles, mais il apparaît comme le successeur désigné par Staline lui-même comme successeur. Et la vérité, c'est que tout le monde dans la société et dans le sommet du système appréhende la succession. Dans la société, la réaction, c'est de se dire, à la fois on pleure Staline, puis on se dit pourvu que ce soit pas pire, enfin pourvu que ce soit qui va lui succéder. Et cette peur, elle est aussi caractéristique de ce qui se passe au sommet du système.
Malenkov, faut le rappeler, est au moment de la mort de Staline chef du gouvernement, chef du parti.
Chef du parti, surtout, hein, il a été
c'est
désigné.
C'est très important. Cela dit, l'homme que l'on craint le plus, puisqu'on parlait de peur, c'est le chef de la police, le patron du goulag, c'est Beria.
C'est Beria, et Beria qui a joué un rôle, véritablement, au moment de la disparition de Staline. La fille de Staline le raconte, elle dit qu'il s'est mis à danser autour de du cadavre de Staline, quand tous ses collègues se rassemblent dans la maison où il vient de mourir, dans la datcha proche de Moscou, il vient de mourir, et Beria s'est mise à danser, effrayant épouvantablement tous ses collègues, qui ont très bien compris qu'il approchait du pouvoir. Ils ont fait une sorte d'alliance, la base de l'alliance tacite. Ça a été surtout éviter tout pouvoir personnel, essayer d'équilibrer les pouvoirs. Je crois qu'il faut savoir que le souvenir de ce qui s'est passé à la mort de Lénine, des années qui ont suivi jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Staline, véritablement jusqu'à son triomphe au début des années 30, est dans tous les esprits des successeurs éventuels. Et Beria semble se diriger vers le pouvoir à vive allure entre mars et juin 53 et en jouant une carte. Vous avez évoqué son rôle véritablement comme responsable des services de sécurité, c'est la carte qu'il va jouer, c'est-à-dire c'est lui qui a les clés des camps, c'est lui qui a les clés des prisons. Et il va jouer le déstalinisateur. Il est le premier à dire ouvrons les camps. Il y a
lui
un adoucissement.
La garde, oui. Lui
exactement.
Qui l'instrument de la politique de terreur.
Exactement. Et c'est cela qui fait peur aussi à ses collègues, car il appuie sur un élément qui est la terreur, qui tout de même maintenait la société silencieuse.
Alors c'est ce qui explique que ses collègues qui complotent contre lui l'éliminent en juin 1953. Dès ce moment-là, il va même disparaître physiquement, sans doute assassiné. Je crois que c'est le dernier, vous le dites, Anne Kardankos, qui va être éliminé physiquement. C'était monnaie courante sous Staline. Et lui, après la mort de Staline, est finalement la dernière victime du système stalinien.
Oui, car il y a un pacte, véritablement, qui s'établit. Un pacte silencieux entre tous les successeurs potentiels. Précisément parce que tout le monde était éliminé par le sang, que le sang ne coule pas. Et au fond, ils s'entendent sur ce point-là. Simplement, ils ont tellement peur de Beria qu'ils le liquident. Longtemps, on a été incertain de son sort. La version officielle est qu'il a été arrêté pour avoir voulu s'emparer du pouvoir, qu'il a été jugé tout à fait légalement et fusillé. Mais en même temps, on n'a pas su très longtemps si véritablement il était mort en décembre 53, comme le disait la version officielle, ou si il a été liquidé immédiatement par ses collègues.
Alors, un qui va être mis sur la touche sans être liquidé, justement, c'est Malenkov, parce que lui aussi, on s'en méfie, quand je dis on, c'est surtout Khrouchtchev. Il est mis sur la touche en 1955, remplacé à la tête du parti par Khrouchtchev, et c'est à ce titre que Khrouchtchev, en février 1956, ouvre le 20e congrès. Alors au début, on se dit, c'est ce que je disais tout à l'heure, au fond, c'est un 20e congrès. Et sa seule particularité, c'est d'être le premier après la mort de Staline. Mais on n'attend pas grand-chose. Et d'ailleurs, pendant les 10 premiers jours, il se passe quasiment rien. Et Anne Kardankos.
On n'attend pas grand-chose. En même temps, il faut savoir que l'atmosphère de l'URSS a changé. Qu'au cours de l'année 54-55, la presse rapporte les cadeaux qu'on a fait à Staline, et en même temps, il y a un certain silence sur Staline. C'est assez intéressant, si vous voulez. On a le sentiment d'une attente.
On ne prononce pas son nom, pratiquement.
Enfin, ouais. Le congrès se réunit. Alors, il y a deux congrès, si j'ose dire. Le congrès officiel et un congrès sous-jacent. Car le congrès s'est réuni et on a remis à tous les délégués un dossier. Le congrès officiel. Un dossier comportant des éléments de réflexion sur la politique agraire de Staline, sur la collectivisation, c'est-à-dire déjà sur les crimes de Staline. Mais rien de tout cela n'est dit. Ils ont la possibilité de consulter le dossier et la possibilité de ne pas y réfléchir. Néanmoins, ce qui est frappant aussi, c'est que ce congrès ouvert, le nom de Staline est à peine prononcé. Alors que on se serait attendu à ce que chaque orateur fasse applaudir le grand chef disparu. Il y a une sorte de silence, ce qui a aussi pétrifié les participants.
Et cela jusqu'à la dernière séance, c'était dans la nuit du 24 au 25 février, lorsque Khrouchtchev provoque la stupéfaction de ceux qui ont assisté à ce qu'on a appelé son rapport secret, en pleine nuit. On demande aux délégués étrangers de s'en aller, ils ne s'adressent qu'aux communistes russes, qu'aux représentants des communistes russes, et là, ils se lancent dans un réquisitoire terrible contre Staline, dont ils révèlent les crimes, les erreurs, et devant une assistance pétrifiée par ces révélations.
25 février 1956, une date à retenir, le 20e congrès du Parti communiste soviétique se terminait avec le rapport secret de Khrouchtchev sur les crimes du stalinisme. La déstalinisation allait changer la face du communisme mondial.
Шел февраль 1956 года. Коммунистическая партия Советского Союза проводила свой 20-й съезд.
Зал наэлектризовался.
Алексей Джубей.
Кричали: «Позор! Убийцы! Предать суду!»
То есть возбуждение достигло предела. Ла сал était électrisée. И уже люди слышали. Да, кредит, ассасин, livrez-les à la justice. L'excitation a atteint son comble et les anciens chefs, le proche entourage de Staline qui se trouvait au présidium, ont tout de suite compris que c'était une catastrophe pour eux, que l'heure de la catastrophe était venue, que Khrushchev faisait ce qu'il voulait faire, dire la vérité sur Staline.
Он расходился, Хрущев, по ходу речи. Et чем активнее воспринимали...
Khrushchev montait sur ses ergots, et plus la réaction de la salle était vive, plus il prenait de l'assurance. La salle hurlait. Je me souviens très bien que des médecins y sont entrés en amenant les personnes saisies d'un malaise. C'était ceux dont les parents, les frères et sœurs avaient été exterminés et que Khrushchev réhabilitait.
Et c'était le gendre de Khrushchev, Alexei Djoubeï, qui nous racontait en 1993 la stupéfaction provoquée par les révélations de Khrushchev sur les crimes de Staline. Il y avait de quoi, Elenka? Donc c'est la première fois depuis 1917 que... Sinon le régime, du moins on accusait un dirigeant de crimes absolument abominables. Et pourquoi est-ce que Khrushchev a brusquement décidé de révéler tous les crimes de Staline alors qu'il est encore populaire 3 ans après sa mort?
Alors, il y a plusieurs explications. Je dirais qu'il y a une question d'abord. Comment est-ce que Khrushchev l'a décidé? Ça c'est une question fondamentale. L'a-t-il décidé tout seul? L'a-t-il décidé en accord avec le parti? La réponse n'est pas encore claire. Il semble tout de même qu'il a imposé l'idée qu'il fallait, dans un rapport secret... dévoiler les éléments pervers du culte de la personnalité. Mais une fois encore, je rappelle, c'était préparé par le dossier qui avait été remis aux membres du Congrès. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu le rapport secret, un certain nombre de questions étaient posées. Cela dit, ce rapport est dévastateur. Il dure des heures, sous les regards atterrés et terrifiés des délégués, car cela met en cause l'ensemble du système.
Mais Khrushchev lui-même, tout cela avait travaillé avec Staline.
Khrushchev lui-même était l'épurateur de l'Ukraine. Or, il met en cause notamment le martyr de la paysannerie soviétique. Et un jour, on lui adressera cet appel, on lui dira: mais vous aussi, qu'est-ce que vous avez fait? Et il a dit: j'avais du sang jusqu'au coude. C'était sa réponse, et c'est la stricte vérité. Mais tous les chapitres y passent, c'est-à-dire l'exercice solitaire du pouvoir, l'excès de la personnalité du pouvoir, mais en même temps, je dirais, la destruction de la société paysanne, la non-préparation de la guerre et la responsabilité d'une guerre qui aurait pu être perdue, et les rapports absolument mensongers, la destruction des partis communistes étrangers, les rapports avec les pays de l'Est. De là découleront les révolutions hongroises et polonaises de 1956. C'est-à-dire
que écrasé dans le sang pour ce qui concerne la révolte hongroise de Budapest, ce qui montre les limites quand même de
absolument.
Dégel qui s'annonce.
Oui, mais cela dit, le choc est absolument fantastique. Et ce qui découle de là, au fond, c'est le mensonge. C'est-à-dire que tout ce que l'on a dit du système soviétique tel qu'il a fonctionné était faux et qu'il reposait sur la peur de la société.
Alors, il fragilise du même coup. En fait, Khrushchev voulait tenir ce rapport ultra secret. Il disait: rien ne doit transpirer à l'extérieur du parti, en particulier dans la presse. Il y a des limites à tout. Nous ne devons pas fournir de munitions à l'ennemi. Nous ne devons pas laver notre linge sale sous ses yeux. Alors, cela dit, ce rapport, il va être connu, même des dirigeants étrangers qui n'y étaient pas. Par exemple, en France, Maurice Thorez en a connaissance. Mais alors, lui, qui est stalinien, tous les dirigeants, d'ailleurs staliniens, sont très embarrassés. Thorez va parler du rapport attribué à Nikita Khrushchev. Il est plus stalinien encore que les dirigeants soviétiques de l'époque.
La vérité, c'est que ce rapport a été remis dans la nuit au chef des délégations étrangères. Il leur a été donné pour le lire et pour le rendre immédiatement. De la même façon, si vous voulez, la décision, c'était qu'il soit secret. Mais en même temps, on ne voulait pas le cacher complètement. Et les responsables des délégations étrangères, y compris Maurice Thorez, qui l'a toujours nié, ont su parce qu'ils l'ont lu avec un interprète russe qui leur a lu le contenu de ce rapport. De la même façon, il était entendu que la société ne devait pas en prendre connaissance, la société soviétique. Et très vite, on a décidé que, au sein non seulement des cellules du parti, mais au sein d'organisations sociales, eh bien, il faudrait le lire à des gens dans des conditions inouïes, c'est-à-dire qu'ils devaient avoir les mains sur la table pour ne pas prendre de notes et qu'ils entendraient la lecture de ce rapport sans commentaire. Et les récits qu'on en a sont terrifiants. Les gens sanglotaient, ils étaient tellement bouleversé, et bouleversé parfois d'indignation, car il n'y a pas eu que le réflexe d'enthousiasme. Il y a eu, si des dirigeants de partis communistes étrangers ne voulaient pas l'accepter, les Chinois, d'ailleurs, très curieusement, dans un premier temps, ont accepté ce rapport, et puis après ça, ils ont attaqué Khrushchev pour avoir détruit Staline.
Alors ça provoque aussi une agitation en Pologne, vous le disiez, l'Inkaya d'Ankos, où le rapport est connu, où se produit une révolte qui va dégénérer, vous l'avez dit aussi, en Hongrie, où elle va être écrasée dans le sang à Budapest en novembre 1956, ce qui montre les limites justement de la déstalinisation et de la coexistence pacifique, une nouvelle politique étrangère annoncée par Khrushchev en novembre 1956.
Conscient de notre force, sûr de nos lendemains communistes, nous lutterons avec résolution pour le désarmement et la coexistence pacifique.
Правда ведь обидно, если завязал, а товарищ продал, падла, и за все сказал. За давнишнее, за драку все сказал Сашок. И двое в синем, двое в штатском, черный воронок. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак. На суде судья сказал 25, до встречи. Раньше б горло я порвался, такие речи, а теперь терплю обиду. Не показываю виду, если встречу я Сашка, ох, как изувечен. До свидания, Таня, а может быть, прощай. До свидания, Таня, если можешь, не серчай. Но все-таки обидно, чтоб за просто так выкинуть из жизни напрочь цельный четвертак.
Et c'était Vladimir Vysotsky, un chanteur contestataire à l'époque du dégel, qui s'est aussi manifesté sur le plan culturel. Et pourtant, là encore des limites. Par exemple, Pasternak, qui reçoit le prix Nobel, se voit interdire de sortir de Russie pour le recevoir.
Il a été interdit de sortir de Russie et il a dû y renoncer, tout simplement pour survivre. Et de la même façon, Solzhenitsyn, qui dans la foulée du rapport secret avait été autorisé, après toute une bataille, c'est Khrushchev qui a pris la décision de publier... la journée d'Ivan Zenisevitch, qui était un récit de la vie des camps, a été ensuite persécuté d'une façon constante. Donc, si vous voulez, culturellement, dès que les intellectuels ont voulu s'emparer du problème, ils ont été condamnés pour cela. De la même manière, les limites, c'est extérieur. Il était l'écrasement en Hongrie, les limites apportées à la transformation polonaise indiquent bien que le parti, et c'est cela que Khrushchev a cherché, il a cherché, en reconnaissant un certain nombre d'errements du stalinisme, il a cherché à sauver le système.
Oui, il n'est pas question du tout, il critique les dérives, pas question de critiquer le parti, le système.
Non, et il a essayé de séparer Lénine, l'idéologie léguée par Lénine. Il y a Lénine qui avait vu juste, qui avait condamné Staline, et apparaît déjà l'idée du testament de ce qu'on appelle le testament de Lénine, c'est-à-dire ce texte où Lénine disait il faut écarter Staline du pouvoir, juste à la veille de sa mort. Et l'usage qu'en a fait Staline est un usage solitaire. Ce que Khrushchev essaye de faire encore, c'est de prouver que Staline était un homme pervers qui, tout seul, a brisé le parti et le pays.
Mais dont les crimes que Khrushchev reproche à Staline ne commencent qu'en 1934. Hein, ce qui fait qu'on permet d'évacuer ainsi, d'abord c'est contre le parti, on dit c'est le parti qui a été victime lui-même.
C'est le parti qui a été victime et détruit.
Mais on oublie le peuple, on oublie les coulacs, on oublie la famine d'Ukraine, etc. Et il faut préserver le régime. Et tout en critiquant Staline, que l'on continue de déboulonner de son piédestal en 1961, retirant son corps du mausolée de Lénine, où il avait été placé en 1953, Serge Malenkine pour Paris Inter à Moscou le 3 octobre 1961.
Le transfert du corps de Staline hors du mausolée s'accompagne depuis quelques jours d'une série de mesures destinées à réduire encore davantage l'auréole de celui-ci pendant des années avait acquis en URSS une situation comparable à la déification pure et simple.
Exhumé de la nécropole où il reposait aux côtés de Lénine, veillé par des foules respectueuses, Staline est mort deux fois. À l'ombre des Spoutniks, la génération nouvelle est invitée à oublier le premier chapitre de la Révolution. Ici repose seul désormais Vladimir Ilitch Lénine. Arraché au linceul de pourpre où dorment les dieux morts, Staline n'est plus.
Staline n'est plus, c'est pas nécessairement toujours le cas. Même aujourd'hui, à l'Inkaya d'Ankos, il semble que beaucoup aient encore la nostalgie de Staline, bien des années, de 50 ans après la déstalinisation.
Eh bien, la nostalgie, peut-être pas de l'homme Staline, mais la nostalgie de l'URSS qu'il avait construite, c'est-à-dire la nostalgie d'une superpuissance, ce qui était son œuvre. La nostalgie, car il y a encore beaucoup de survivants de la Seconde Guerre mondiale, la nostalgie de la victoire de 1945 qui a introduit l'Union soviétique dans la cour des grands et même des super grands, la nostalgie de l'ordre aussi. Dans la Russie aujourd'hui, mmh. où l'ordre public n'existe pas, où même la nation perd sa place, Staline apparaît comme l'incarnation de celui qui a maintenu un système organisé, une certaine égalité sociale. C'était l'égalité dans la misère, sans doute, mais dans la Russie inégalitaire d'aujourd'hui, au moins une génération âgée se tourne vers le souvenir de Staline.
Oui, mais on connaît ses crimes quand même maintenant, et depuis Khrouchtchev. Khrouchtchev d'ailleurs qui, paradoxalement, lui, en revanche, semble être totalement oublié. Il a été chassé du pouvoir en 64, et puis, est-ce qu'on parle de lui encore
en Russie? Les crimes ont pris beaucoup d'ampleur, ou la connaissance des crimes a pris beaucoup d'ampleur entre 56 et 64. Depuis lors, le parti a travaillé à atténuer ce souvenir, ou je dirais à le relativiser. On en a parlé de moins en moins. Et aujourd'hui, la mémoire a changé. Il y a, tout cela s'est passé il y a 50 ans, le stalinisme est loin. Pour la jeune génération russe, Staline ne connaît pas, mais en même temps, la jeune génération russe, elle sait aussi qu'il y a eu une Union soviétique de la grandeur. Et que cette grandeur, celui qui faisait peur au monde, alors qu'aujourd'hui, les gendarmes du monde sont les États-Unis, s'appelait Staline. C'est ce qui explique une certaine nostalgie, et je dirais même une vision idyllique tout à fait extravagante. Beaucoup de gens âgés disent « Ah ben sous Staline, nous avions des pensions qu'on payait, on vivait beaucoup mieux, ils pensaient à tout le monde. Le terrible épurateur, celui qui massacrait la société, a pris pour une partie de la société le visage de celui qui assurait le bien-être quotidien et l'égalité. »
Mais j'en reviens à ma question sur Khrouchtchev. Lui, en revanche, il semble qu'en URSS, enfin en Russie, pardon, puisqu'elle s'appelle la Russie maintenant, tout le monde est oublié, alors que 35 ans avant Gorbatchev, au fond, il est le véritable artisan de la première perestroïka, l'artisan de ce qui allait provoquer, beaucoup bien après lui, la chute du communisme.
Vous avez raison. D'ailleurs, vous avez dit tout à l'heure que le dernier mort physique était Beria. Khrouchtchev a été le non-vivant. En 1964, il a été chassé, il est devenu une non-personne et son nom n'était plus prononcé. Et ça a duré extraordinairement, au point que il y a cet hiver, au mois de février, à Moscou, on a ouvert une exposition dans la salle du manège pour les 50 ans du rapport secret. Une exposition consacrée à Khrouchtchev. À ma surprise, je vous dirais qu'au lieu des foules que je pensais y voir, il y avait des souvenirs personnels de Khrouchtchev, il n'y avait pas beaucoup de monde, très peu. Et devant ses souvenirs personnels qui sont très émouvants, les vêtements de Khrouchtchev, des affaires personnelles, des annotations de sa main. Et il existe un texte annoté de sa main du rapport secret d'ailleurs, qu'il est impossible de se procurer encore. Mais devant tous ces objets personnels, les Russes qui se promenaient regardaient ça comme ils auraient regardé une exposition consacrée au XVIIe siècle. Et cela montre que le temps a passé et que d'être une non-personne pendant des générations vous efface de la mémoire collective.
Merci Elenka Ardanko. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 1956, La deuxième mort de Staline, une version revue et enrichie d'un ouvrage publié en 84 et intitulé 1956, La déstabilisation commence. Un seul livre est paru aux éditions Complexes. Vous avez pu entendre des archives pâtées de 1953 et 1961, disponibles en DVD chez Montparnasse Éditions, dans les collections Le Journal de votre année. Et nous avons également diffusé un extrait de l'émission L'Histoire en direct, diffusée sur France Culture en avril 1993. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Alain Arnstam et Jean-Philippe Jeanne, documentation et archives sonores Claire Destacan et Claire Tessert, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'islam et le sexe, mais tout de suite, en attendant les 1001 nuits, les 1001 après-midi du Scheherazade de France Inter, Eric Oswald, bonjour.
Bonjour Patrice, oui, effectivement ici, sex and drugs and rock and roll, mais c'est très politiquement incorrect. Vous, demain, l'islam côté lumière, c'est plus classe.
Demain. À demain.
Et surtout, j'offre la garantie d'un toit solide pour abri. Moi, je serai ton parapluie.
L'ami de la musique. Musique. Music.
Musique express.
Des sensations musicales inimaginables jusqu'à présent.
Eric Oswald.
Merci à vous, ça a l'air parfait maintenant.
Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express pour la première de la semaine. J'espère que le week-end a été excellent. Nous repartons avec des musiques d'un peu partout et comme chaque lundi, nous conclurons avec un titre avec de bonnes grosses guitares, très courantes dans le rock'n'roll. Très bien, puisque c'est rock'n'roll de Led Zeppelin que nous écouterons. Il me semble bien que nous l'avions écouté, oh là là, au tout début de l'émission. Là, c'est, non, c'était pas au XXe siècle, c'était il y a 2 ans seulement. Rock'n'roll de Led Zeppelin pour conclure, donc, mais pour commencer, un peu de respect humain.